défi de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défi de chez nous, le magazine socio-économique de la synergie des radios
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Idri Diabanyagihugu et la télévision Renaissance. Défi de chez nous, rendez-vous chaque dernier jeudi du mois sur nos ondes.
Bana biwacu ni mukunde kwiga uguca ubwenge niko gukira. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on nous apprenait des chansons qui nous motivaient à enseigner. Tout le monde le sait.
C'est un chercheur dans le domaine de l'éducation que vous allez suivre dans ce magazine. Défi de chez nous, bonjour, bonsoir. C'est toujours le plaisir d'être avec vous dans son nouveau rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous parlons éducation des enfants de moins de 10 ans. 42% de ces enfants ne savent ni lire ni écrire le Kirundi, encore moins le français. C'est du moins le résultat des enquêtes du ministère de l'Éducation dans son projet PADESCO, appui à l'amélioration des apprentissages, un projet financé par la Banque mondiale. Ces chiffres ne sont plus à démontrer selon les témoignages des enseignants que vous suivrez dans cette émission. Ils nous parlent des conditions de travail médiocres, des enseignants non qualifiés, la surpopulation des écoliers, tout ça rendu problématique par des enfants qui viennent à l'école sans avoir mangé, des raisons qui contribuent négativement dans l'apprentissage de ces enfants burundais d'au moins de 10 ans. Dans ce magazine, vous aurez l'analyse d'un expert. Il nous parlera des conséquences de ce système d'enseignement qui a des répercussions dans le cursus éducatif jusqu'à l'enseignement dans les universités. À suivre également les solutions proposées. Défi de chez nous, vous êtes avec Patrick Mitawaro en compagnie de Inès Gakiza et Révérien Bazikamwe. On plante le décor avec Inès Gakiza. Elle a rencontré des enseignants de ses enfants. Ils confirment que la moitié des écoliers ne savent ni lire ni écrire. Ils se sont confiés à elle.
C'est la vérité. La plupart des enfants d'au moins de 10 ans au Burundi ne savent pas lire ni le Kirundi ni le français. Nous, leurs enseignants qui les suivons au quotidien, nous le confirmons.
Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils sont incapables de bien écrire toute une phrase avec des lettres bien lisibles. Certains écrivent de la même façon la lettre A et la lettre O.
Dans ma classe, juste 50% savent lire et écrire.
Ce sont les enseignants dans différentes localités du Burundi. Engagés pour apprendre, entre autres, aux enfants burundais à lire et à écrire, ils reconnaissent ne pas toujours y arriver. Une des raisons données par ces enseignants est le surnombre des enfants leur confiés.
Nous avons un effectif pléthorique dans les classes. Des fois, on te confie une classe de 100, de 120, 138 élèves. Un seul enseignant ne peut pas suivre chaque enfant individuellement.
Face à ce surnombre, le temps imparti au cours a été aussi réduit. Une situation qui, pour ces enseignants, complique davantage leur travail.
Ils ont réorganisé autrement notre travail. Avant, chaque tranche de cours était de 45 minutes. Actuellement, ce n'est pas le cas. Maximum, c'est 30 minutes. Les cours dispensés les après-midi, c'est encore moins. C'est carrément impossible de dispenser un cours et évaluer les enfants dans 30 minutes.
Travaillant dans des conditions peu favorables, ces enseignants affirment aussi que certains d'entre eux n'ont même pas les compétences requises.
Il ne faut pas aussi ignorer le favoritisme dans le recrutement. Ils embauchent sur base d'appartenance politique, province d'origine. Et on se retrouve avec des enseignants incompétents. Et ce sont des enfants qui le payent. Ils ne peuvent pas savoir lire et écrire.
Confrontés à ces conditions d'enseignement, les éducateurs avouent que les enfants perdent le goût de l'école en classe suite à leur surnombre. Ils se distraient les uns les autres. D'autres demandent sans cesse les permissions pour sortir, inventant des motifs. Plus grave, la pauvreté touche également le domaine de l'enseignement. Passant des jours sans manger, les enseignants témoignent que des enfants s'évanouissent en grand nombre à l'école.
Cet échec est causé aussi par la situation de pauvreté de plusieurs ménages. Les enfants se présentent à l'école sans avoir mangé. Les enfants s'évanouissent en grand nombre. L'enseignant qui a de l'argent achète du Fanta et du beignet. Une fois réanimés, les enfants avouent avoir passé des jours sans manger.
Et ce sont là des enseignants qui se sont confiés à Inès Gakiza. Et le ministère de l'Éducation, lui, donne des statistiques de ces enfants de 10 ans qui ne savent ni lire ni écrire le Kirundi, encore moins le français. Béatrice Samandari, chargée du projet d'appui à l'amélioration des apprentissages au ministère de l'Éducation, donne un taux de 42% de ces enfants, comme on peut le lire dans le journal Iwachu. Cela a certes des explications. Et la ligne Ivizi, présidente du syndicat STEB, dit que les enseignants ne sont plus suffisamment outillés pour enseigner les enfants. En plus des conditions difficiles, ils se heurtent à la pléthore des écoliers dans les classes. À cela s'ajoute la politisation du secteur de l'éducation qui défavorise l'épanouissement des enfants. Et la ligne Ivizi est l'ancienne présidente du syndicat STEB des enseignants du primaire. On l'écoute.
Première chose, les enseignants n'ont pas de formation de base pratique qui leur permet d'affronter une classe. Une fois dans la classe, c'est toujours le même problème. L'enseignant, le jeune enseignant entre dans une classe, surchargé, il a appris théoriquement et il n'a pas été formé dans ce qu'on appelle la méthodologie des grands groupes. Comment faire lire le grand groupe dans une classe où la moyenne des élèves est entre 80 et 200 élèves par classe, ce niveau l'enseignant sera d'abord déstabilisé et il va donner une leçon pendant entre 30 et 45 minutes selon le degré d'enseignement. Là, il aura des difficultés. Depuis la formation de base, les futurs enseignants étudient théoriquement, n'ont pas de matériel didactique. Et or, enseigner sans avoir un matériel didactique pour appliquer, pour aider les élèves à lire, à voir, à écouter, dans un environnement à effectif trop élevé. Vous comprenez, c'est l'enseignant. Quelle que soit sa bonne volonté d'avoir un bon résultat, parce que le rêve d'un enseignant, c'est de voir ses enfants réussir, parce qu'il les a appelés nos enfants. Alors, sans la période d'actif, vous venez d'apprendre que depuis tout son trimestre, il y a des enseignants de première année qui n'ont pas de matériel didactique. Quand vous ratez un trimestre pour un enfant de première année de l'école fondamentale, c'est que vous ratez toute une vie. Comment rattraper le programme raté avec des effectifs élevés? Là, vous avez entendu ça à la radio. Il faut appartenir au parti des raisons, la politique qui se mêle de la pédagogie. Vous comprenez que le directeur d'école qui aura eu sa promotion grâce à son engagement politique ne pourra pas donner la politique aux enseignants, il ne pourra pas encadrer les enseignants. Les enseignants sont démotivés. D'abord, ils ne sont pas respectés dans leur métier. Vous n'êtes pas respectés. Vous n'avez aucune décision dans la classe. C'est la politique qui décide de la pratique pédagogique n'a plus de valeur. L'enseignant n'est pas écouté, l'enseignant n'est pas respecté, l'enseignant n'est pas encadré et il est martelé. Il y reçoit des effectifs trop élevés. 80 élèves pendant 30 minutes, on leur donne de quoi. Vous enseignez deux groupes. Déjà, une classe est utilisée en groupe le matin. Ça fait des classes. Normalement, les effectifs ne doivent faire de 40 élèves par classe. Alors, combien de temps allez-vous encadrer à ces élèves? Les enseignants, alors, qui sont démotivés, qui ne sont pas renforcés. Normalement, l'enseignant devait recevoir un salaire double. S'il reçoit une double classe, il devait recevoir une motivation, une indemnité pour les effectifs. il y a aussi ce problème de non-respect de la liberté, de la liberté professionnelle. Le président Seymour, il n'est pas écouté, n'importe qui peut l'agresser, personne ne le protège. L'enseignant n'est pas écouté, il n'est pas protégé, il est mal payé. Il est démotivé de telle manière que tous les enfants vont dire, ben, je ne vais pas dans l'enseignement parce qu'ils sont mal payés, ils sont surchargés. Et voilà les raisons. Ma recommandation pour s'en sortir, il faut d'abord respecter l'enseignant. Respecter l'enseignant, l'écouter, lui donner une formation de base suffisante, réduire les effectifs par classe et donner un matériel pédagogique suffisant. Mais tout cela exige ça. Ça exige un investissement dans l'éducation, mais aussi la dépolitisation de l'éducation, séparer le pédagogique du politique. Et comme ça, l'école pourra avoir sa sécurité et les effectifs des élèves pourront. Et le nombre d'élèves qui ont des performances en lecture, en écriture et dans d'autres aspects de l'enseignement pourront s'améliorer.
L'invité.
L'invité.
Professeur Gera Nivashira Kandi, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez suivi l'étude financée par la Banque mondiale qui fait état de 42% des enfants de moins de 10 ans qui ne savent pas le kirundi et le français. Est-ce que ce chiffre inquiète selon vous?
Absolument. Là, le chiffre est très, très inquiétant. Mais ce n'est pas étonnant parce que tout simplement, quand on voit les étudiants de l'Université du Burundi, comment ils s'expriment, notamment en français, comment, si on voit des ministres, même des hautes autorités du pays, comment ils s'expriment en français, il y a lieu effectivement de se poser des questions. Donc ce n'est pas étonnant que 42% des enfants de moins de 10 ans ne savent pas ni lire ni écrire. Et c'est un problème dramatique pour le pays, bien sûr. Ce chiffre interpelle. Il faut des mesures. Il faut absolument changer les choses.
Et le rapport, effectivement, parle de la surpopulation des élèves qui fait qu'il y ait la qualité de l'enseignement qui n'est pas satisfaisante. Et selon vous, quelles sont les raisons, selon vous?
Il y a beaucoup de raisons, mais la principale raison, c'est la formation des enseignants. Quel est le profil des maîtres du primaire? Est-ce qu'ils sont formés suffisamment? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour dispenser les cours? Je doute fortement. Donc, la raison principale, c'est la non-qualification des enseignants, donc des maîtres qui enseignent ces écoliers. La deuxième raison, c'est bien sûr la politisation de l'enseignement. Parce que tout simplement, vous le savez, que depuis une quinzaine d'années, les enseignants sont recrutés sur base d'appartenance politique. Et donc, finalement, la question de compétence n'intervient plus. Donc, la belle fille du monde nous donne ce qu'elle a. Si ces enseignants, si ces maîtres ne sont pas qualifiés, vous comprendrez qu'il est tout à fait normal que les résultats sont médiocres. Bien sûr, il y a d'autres raisons, notamment les classes qui sont pléthoriques. Ça, c'est classique, hein, c'est connu. Mais je dirais les trois principales raisons, c'est la non-qualification des enseignants, c'est la politisation de l'enseignement au Burundi, c'est le manque de programmes, en fait, qui est lié d'ailleurs à la formation des enseignants. Donc, il y a un manque de programmes et bien sûr de matériel didactique. Il y a bien sûr une autre raison quand même importante, c'est la démission de l'adulte, depuis les responsables du pays jusqu'aux parents. Nous ne sommes plus de modèles. Quel message donnons-nous aux enfants suite au comportement des uns et des autres, notamment des responsables politiques? Vous voyez, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on nous apprenait des chansons qui nous motivaient à enseigner. Tout le monde le sait. Malheureusement, aujourd'hui, les enseignements qui sont donnés aux enfants ou les chansons que les enfants apprennent, malheureusement, ce sont la politisation. C'est la semer la haine et ça ce n'est pas l'éducation, parce que l'éducation ce ne se fait pas non seulement en classe, mais aussi en dehors de la classe. Il faut que les enfants puissent avoir des modèles. Donc, si j'interpelle les parents et les responsables politiques pour que nous tous, les adultes, nous soyons des modèles pour ces enfants.
Effectivement, ce taux de 42% des enfants qui ne savent pas ni lire ni écrire, les enfants de moins de 10 ans, ça devrait interpeller, selon vous, l'autorité.
L'autorité, normalement, il devrait prendre des initiatives tout de suite. Les 42%, c'est vraiment interpellant. C'est grave, parce que tout simplement c'est l'avenir du Burundi et des Burundais qui est hypothéqué. Donc, ils doivent absolument prendre des mesures et très très rapidement. Et la première mesure, c'est tout simplement organiser la formation des maîtres, la formation continue pour ceux qui sont en fonction, mais aussi créer très très rapidement, je dirais, des instituts qui forment les enseignants de l'école maternelle, du primaire, du secondaire, et très, très rapidement, et une formation de qualité, pas d'une année ou de 6 mois, mais de 5 ans, pour que, au moins d'ici 5 ans, le Burundi puisse avoir une masse critique d'enseignants qualifiés. Ça, c'est vraiment une urgence. C'est la première mesure qui devait être prise. Bien sûr, il faut aussi des mesures politiques, notamment changer le discours ou les discours qu'on entend au quotidien. Les parents doivent absolument jouer leur rôle de parents et accompagner leurs enfants, les préparer à devenir des citoyens modèles de demain, caractérisés par Ubuntu et Ushinganai, comme on dit dans notre culture burundaise. Donc, il y a une série de mesures. Bien sûr, il faut continuer à construire des infrastructures, mais aussi disponibiliser le matériel didactique, les livres et autres. Donc, franchement, je crois que ce chiffre est interpellant et c'est signe du degré de délabrement du système éducatif burundais.
Professeur libéral Nashira Kandi, merci.
Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de s'exprimer sur cette question qui, pour moi, une question importante pour le Burundi.
Eh bien, voilà, c'était la professeure Libera Nivashira Kandi qui était l'invitée de ce magazine. Défi de chez nous, c'est ici que s'achève cette émission. Merci pour votre fidélité. Défi de chez nous, c'est tous les derniers jeudis du mois. Je vous fixe le prochain rendez-vous jeudi le 28 novembre sur les ondes de nos radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine.